Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour les amis, soyez les bienvenus à la table des bons vivants. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi et nous sommes installés sur la terrasse d'Europe 1 pour une émission spéciale pique-nique en public. Des auditeurs venus nombreux avec leurs recettes, vous allez entendre. Il a apporté sa plus belle nappe et ses verres à pied, sans oublier le vin de circonstance, vous pensez bien. Olivier Pouls est avec nous, bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Passez-moi donc un peu de crème solaire, tiens.
Oui, ça va bronzer, tiens. Pour l'instant, ça risque de se couvrir cet après-midi. Il est venu avec sa musette remplie de conseils et de belles recettes, avec cette semaine une idée cadeau pour la fête des mères, Yves Candebord est des nôtres.
Bonjour, bonjour Laurent, bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Moi, j'ai pas besoin de crème solaire parce que moi, j'aime le soleil. Je viens du sud.
Oui, comme la chanson, pareil. Marion Sauveur rentre tout juste de la cueillette des fraises en Sologne. Elle sera là pour son journal de la cuisine. Pas de pique-nique, vous pensez bien, sans le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Il nous aidera à choisir le meilleur coin pour s'installer. Côté assiette, nous accueillerons le chef parisien Christophe Saint-Agne du restaurant Papillon avec Laura Portelli du garde-manger. Ils nous donneront des idées pour pique-niquer chic et simple. Sans vous oublier, vous, amis auditeurs, venus nombreux avec des salades, des tartes, des quiches et des victuailles en pagaille. Et puis le pambagna sera notre plat du jour. Nous le partagerons avec notre invité, le comédien François-Xavier de Maison. Sortons les nappes, c'est l'heure du pique-nique. Content de vous retrouver les amis. Yves Candebord, on vous a vu cette semaine aider les Français à manger sainement sans se ruiner dans À table sur France 2 avec Faustine Bollard.
Oui, oui.
Belle émission.
Une belle émission et surtout voilà, je pense qu'on a essayé de transmettre un peu ce plaisir qu'on a de cuisiner, de retrouver le vrai goût des vrais aliments.
Eh bien c'était réussi. Et Olivier Pouls, on vous a vu sur les réseaux sociaux faire de bonnes tables pour la revue du vin de France.
Bah, je m'active, vous savez, c'est du boulot hein, chaque semaine, c'est compliqué, dur. Ah, là, c'est
difficile métier. Alors votre goût de la semaine, question rituelle pour démarrer, on va commencer par vous Olivier Pouls. Quel est votre goût de la semaine?
Eh bien, on parlait de bonne table. Je ne sais pas si vous connaissez le Mas Botero, qui est à Saint-Cana, pas très loin d'Aix, alors qui a la bonne idée de nous proposer une belle cuisine, mais surtout une cuisine qu'on peut emporter, puisqu'il est question de pique-nique. Eh bien, moi, je vous ai apporté les bocaux du Mas Botero, toute une gamme de bocaux qui se conservent, qui peuvent se manger comme ça, chez soi, à la maison, ou évidemment en bord de rivière ou dans la forêt. Et voilà, je vais vous apporter par exemple les pois chiches poivrons chorizo. Vous allez me goûter ça.
Ah, je vais vous apporter
de la tapenade, de la rillette de thon. Ce sont des bocaux bien faits avec des beaux produits.
Ah oui, bien relevés, dis donc.
C'est bien relevé.
Ah, c'est bien ça.
C'est bon, c'est simple et c'est tout à fait abordable. Ça se trouve soit en boutique en ligne, soit sur place, bien sûr, et dans quelques épiceries.
Ah, on peut acheter en ligne, c'est
voilà,
bien
le Mas Botero.
Yves Candebord, quel est votre goût de la semaine, mon ami?
Alors, moi, c'est un produit de saison que j'affectionne particulièrement. C'est la rhubarbe.
Ah, bienvenue voilà. Au club. On en parle beaucoup hein, depuis quelques semaines de la rhubarbe, mais c'est la pleine saison.
C'est là, la pleine saison. Alors, c'est vrai qu'on la connaît souvent en sucré. Et moi, je l'adore en salé.
Avec quoi ?
Alors, taillé très finement dans une salade, ça va amener du croquant, ça va amener de l'acidité. Et ce que j'adore faire aussi, c'est faire un pickle, ça avec la rhubarbe. Tailler des petits morceaux en forme de bâtonnet, les mettre à mariner dans un vinaigre de vin avec un peu d'estragon, avec des graines de coriandre, des graines de poivre.
Oh.
L'oublier un peu au frigo et la ressortir quand il fait très chaud comme aujourd'hui avec une viande froide, ça vous fait un accompagnement croquant et acide qui est remarquable.
Ou une terrine.
Et après, avec une terrine, bien sûr, ça remplace, je dirais, le fameux cornichon qu'on aime tant.
C'est ça.
Mais ce que j'aime aussi, avec le poisson, une noix de beurre, des petits cubes de rhubarbe roulés dans le beurre, déposés sur un poisson rôti, ça fait la garniture, ça fait l'âme du plat. La rhubarbe en salé, c'est magnifique.
Je vois que ça acquiesce parmi nos auditeurs. Voilà, vous avez bien vendu votre idée de rhubarbe, Yves Candebord. Bravo. Mon goût de la semaine, moi, c'est la limande. La limande, un poisson plat, je trouve, qui est méconnu, négligé, qui coûte beaucoup moins cher que la sole. J'étais à Boulogne-sur-Mer cette semaine, sur le quai Gambetta, là où il y a le marché aux poissons. La limande de Loulou, c'est une poissonnière qui est sur le marché Gambetta. Elle est à 3 euros. 3 euros le kilo, la limande. Un poisson
Loulou
frais. Mais même partout en France, elle sera plus chère que ça, bien entendu, mais elle restera toujours moins cher que la sole. Donc pensons à la limande parce que c'est la pleine saison aussi.
La sole, c'est 10 fois plus cher.
Ah oui, c'est beaucoup plus cher, ouais. Alors c'est un peu moins charnu la limande, c'est sûr, mais c'est délicieux, juste grillé comme ça, il n'y a même pas besoin d'enlever la peau. Allez, direction le marché de Gien dans le Loiret, les amis. La saison du pique-nique est ouverte et Marion Sauveur vous a demandé ce que vous mettriez dans votre cabas pour un déjeuner sur l'herbe réussie.
Des radis, du jambon, du pain. La terrine de volaille chez M. Baron qui est délicieuse, chez M. Lelouvier qui fait des pâtés délicieux, que des produits de la région.
Si je vais pique-niquer, je ferai mon taboulé. Je mets de l'avocat, je mets du pamplemousse ou tout dépend, concombre, voilà, maison, revisité entièrement.
Si j'allais pique-niquer, je prendrais de la salade, des carottes pour faire des carottes râpées peut-être, des fraises et de la crème bien entendu, du fromage de chèvre parce que par ici on a quand même des très très bons producteurs.
Pour mon prochain pique-nique, j'irai chez le boucher, là je prendrai du jambon, du saucisson et une bouteille de rosé, pardi.
Et une bouteille de rosé pardi. Ben voilà, Olivier Pouls.
On en parlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure. Ce sera le sujet de votre chronique, absolument. Et puis c'est vrai qu'en Sologne, eh bien, on a de beaux fromages de chèvre. C'est une très belle région aussi, une belle région de gibier aussi quand c'est la saison.
Oui, c'est une très très belle région. C'est un peu, je dirais, le vivier de la France. Mais il y a énormément de maraîchers, il y a énormément de producteurs qui nous font des produits d'exception.
Eh bien, vous me faites la transition. On va aller justement en Sologne cueillir la fraise de Sologne. Une belle spécialité, vous allez voir, du coin. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Restez avec nous. Direction à Sologne donc pour déguster les fraises dans un instant. On revient tout de suite sur Europe 1. Bon samedi matin.
Excellent week-end sur Europe 1 le samedi jusqu'à midi et demi. Vous êtes à la table des bons vivants avec Laurent Mariotte. Émission spéciale pique-nique en direct de la terrasse d'Europe 1. Et c'est une table qui aujourd'hui sent bon les fraises, Laurent.
Absolument, Géraldine. La table des bons vivants, elle naît dans les fraises hein, ce samedi, parfumée, fondante.
Donc elle ne sucre pas les fraises.
Oui, c'est vrai, il ne faut pas sucrer. C'est le fruit de bouche idéal pour un pique-nique. C'est le fruit rouge le plus précoce avant l'arrivée des cerises, des framboises, des groseilles. Alors la guariguette, on en parle beaucoup, elle a ouvert le bal, hein, c'est la fraise primeur. Mais c'est maintenant la bonne période, les prix deviennent accessibles et puis elles ont du goût, Yves Condebord, là.
Oui, elles ont du goût. La fraise, c'est vraiment le produit de printemps par excellence. On a la chance d'avoir une saison, début de saison qui est remarquable. Après, il faut bien les choisir, Laurent. C'est quand même important.
On est d'accord, Yves, qu'on ne ramène pas sa fraise d'Espagne en ce moment. On achète français. Hein.
Bon, on achète français. Je vois, il n'y a aucun intérêt de ramener des fraises d'Espagne, en sachant aussi que les Espagnols, par contre, ils ont des cahiers des charges complètement différents des nôtres.
Ils ont droit à des pesticides et des cochonneries qu'on ne peut pas utiliser chez nous. Hein.
Vous l'avez dit, ils ont droit à toutes les cochonneries du monde.
Voilà. Et on achète de la fraise de pleine terre. On essaie de se renseigner quand on va sur le marché. On demande d'où elle vient, comment elle a été cultivée. C'est tellement important.
Elle aura toujours plus de goût qu'une fraise hors sol. La terre donne du goût aux fruits, aux aliments. Ne l'oublions pas, Yves.
Totalement. C'est le vrai, je dirais, c'est le vrai petit problème qu'il y avait la fraise. C'est que malheureusement, il n'y a pas de législation par rapport à ça. Il n'y a qu'une fraise, à ma connaissance, qui a l'IGP. C'est l'IGP Périgord. Qui a le cahier des charges exclusivement fraises de pleine terre.
Mais on en trouve partout dans nos régions.
On en trouve partout. Après, Laurent, j'ai envie de vous dire, selon la région où vous êtes, restons très proches de notre territoire.
La fraise de Samé dans le Nord.
La fraise de Samé dans le Nord. Ce qui est important, Laurent, il faut savoir une chose, je vais le redire fortement, c'est que les gens qui font les fraises hors sol ne sont pas des producteurs, c'est des chimistes.
Ce n'est pas le même travail. Alors côté variété, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la guariguette, qui a peut-être un petit peu vampirisé les autres variétés hein, depuis quelques temps. Alors c'est vrai qu'elle est acidulée, mais il y a plein d'autres variétés à découvrir, Olivier Pouls.
C'est vrai que la guariguette, elle ouvre le bal, donc on a un peu envie de fraises, on se jette dessus, mais ça c'est les fraises de printemps. Après, il y a la Pajaro, la Sifflorette, la Cléry, la Citadine, la fraise de Plougastel, et puis il y a des fraises qui vont se poursuivre un peu plus tard dans la saison.
Oui, il y a les remontantes.
On appelle
aussi.
Les remontantes, donc des fraises qu'on va trouver en été, et notamment la fameuse Mara des Bois, avec ce petit goût très particulier qui rappelle un peu la fraise des bois qui est délicieuse.
Est-ce que vous aimez les fraises, amis auditeurs, sur la terrasse d'Europe 1, là, en plein soleil? Oui, hein, tout le monde en croque pour la fraise. Eh bien, on vous emmène les récolter, tiens, justement, avec Marion Sauveur, direction la Sologne, chez Michel Piquet, qui est producteur de fraises à Soin en Sologne, dans le Loir-et-Cher, cueillette de fraises, les amis.
On est dans une parcelle avec la variété Cigaline, ici. Hein. C'est une variété de fraises rondes, c'est une cousine de guariguette. On les récolte à la main, on se met à genoux, hein, et puis vous voyez, je prends ma fraise délicatement, je ne touche pas au fruit, hein, je vais au-delà du pédoncule, voilà, vous voyez.
Toc. Et une fois qu'on les a récoltées en Sologne, ces fraises, elles vont dans
elles vont au cadran, au marché au cadran.
Un marché aux enchères, en fait.
C'est un marché aux enchères dégressive.
Comment est-ce qu'on fait pour choisir des fraises?
Il faut que le pédoncule vous donne une impression de fraîcheur. Hein.
Soit vert. Hein.
Voilà, exactement.
L'odeur aussi.
L'odeur aussi, bien sûr. Pour la consommer, pitié, ne mangez jamais une fraise en la sortant du frigo 3 minutes avant de la manger. C'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible.
Ça a pas de goût.
C'est une erreur considérable.
On les apprécie pas.
Du tout.
Nous sommes d'accord, Michel. Surtout pas de fraises dégustées à la sortie du frigo parce que le froid casse l'arôme, tout simplement.
Voilà, hein. Ouais, Laurent, j'ai envie de vous dire, c'est pour tous les fruits et légumes, c'est identique. Quand ça sort du frigo, le froid, voilà. Bloque les arômes et ça n'a aucun intérêt. Et en plus, le choc thermique sur la fraise, qui est quand même un produit
très fragile.
Très fragile, très délicat. Quand on les achète, il faut les consommer. On ne peut pas se permettre de garder 48 heures des fraises à la maison. C'est parce que sinon, à un moment donné, voilà, elles vont quelque part se flétrir et c'est beaucoup moins intéressant.
Et c'est pour ça que si on peut aller les chercher directement chez les producteurs, et parfois ça existe, hein, y a des fermes qui vous ouvrent leurs portes, ça a quand même même un autre goût quand ça vient directement du fraisier à la bouche que quand c'est passé par des circuits et notamment par des périodes de stockage parfois un peu longues.
Puis, quelques idées de recettes tiens, pour nos auditeurs qui nous écoutent, là, parce qu'on peut faire des tas de choses avec la fraise. Un fraisier express, on en a parlé la semaine dernière avec Benoît Castel. On peut aussi les cuire dans une poêlée d'huile d'olive, par exemple,
Yves Condebord. Je vais revenir avec ma rhubarbe. Là, je
parle de ma rhubarbe, c'est un très bel accord.
Je l'aime, la rhubarbe. Oui. Un petit sirop, 1 litre d'eau, 250 g de sucre quand ça boue. On coupe des bâtonnets de rhubarbe, on les met dedans, on couvre hors du feu, on laisse infuser. Après, on récupère les bâtonnets de rhubarbe avec ce jus. On met des fraises dedans, Laurent, un trait d'huile d'olive, un coup de moulin à poivre. Et ça vous fait une petite salade rhubarbe fraise qui est très facile à
ça
faire.
Ça, c'est super. Et juste poêlé dans un petit peu d'huile d'olive, c'est Reine Samut à Lourmarin qui m'a appris à faire ça. Un petit peu d'huile d'olive, des fraises coupées en morceaux et du poivre vert. Et déglacé avec du vinaigre balsamique, c'est un très bel accord, ça aussi.
Voilà. Et la fraise sème les herbes aussi, utilisées de l'estragon, par exemple. Estragon et fraise, basilic et fraise, ça marche très bien.
Et le vin aussi, la fraise aime le vin. Les fraises au vin, c'est un dessert un petit peu campagnard, comme ça, qui est délicieux aussi.
Un champagne rosé avec les fraises.
Il n'y a que de beaux accords. Ne bougez pas, les amis, on se retrouve dans un instant avec le journal de la cuisine de Marion. Et puis nous inviter un chef cuisinier et son amoureuse qui a un joli garde-manger, vous entendrez. Et puis les auditeurs d'Europe 1 venus avec plein d'idées de recettes pour pique-niquer. A tout de suite sur Europe 1.
Chaque samedi sur Europe 1, vous êtes invité à la table des bons vivants. C'est avec Laurent Mariotte. Et aujourd'hui, Laurent, c'est spécial pique-nique et en public.
Absolument Géraldine, on a sorti la nappe pour un joli pique-nique avec les auditeurs d'Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Sur les coups de midi, nous partagerons un pambagna avec François-Xavier Demaison, notre invité. Et dans un instant, nous allons découvrir le menu pique-nique du chef Christophe Saint-Agne, sans oublier les recettes de nos auditeurs installés avec nous sur la terrasse d'Europe 1. Ça se passe bien, ils mangent des fraises de Sologne, ils ont bonne mine, on bronze parce qu'il y a encore du soleil à cette heure-ci. Et nous retrouverons aussi les recettes de Laura Portelli qui est venue avec son garde-manger juste après le journal de la cuisine de Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
C'est parti pour les titres du journal Marion.
Les Français se méfient des inscriptions sur les emballages alimentaires, c'est ce que révèle une étude Opinionway. Vous avez 15 jours pour prendre de nouvelles habitudes et réduire votre consommation de plastique jetable, c'est le No Plastic Challenge. Et un mot sur 5 que les Américains ont du mal à prononcer est français. Plusieurs spécialités culinaires en font partie.
Alors, si vous avez déjà renoncé à un achat à cause d'un manque d'informations sur un produit alimentaire, vous faites partie de la majorité des Français.
Les consommateurs sont de plus en plus critiques sur les informations des emballages. D'après un sondage Opinionway, ils sont une majorité à les trouver peu complètes, peu transparentes, insuffisantes. La composition, la provenance, la date limite de consommation du produit sont les informations qui les intéressent le plus.
Jusqu'au 5 juin, participez au No Plastic Challenge et réduisez votre consommation de plastique.
L'initiative de l'association No Plastic in My Sea a démarré mercredi. L'idée est que chacun limite l'utilisation de plastique jetable en relevant un défi quotidien. Alors, je vous propose un défi aujourd'hui, Laurent, à l'occasion de notre émission spéciale pique-nique, de prendre donc de nouveaux réflexes. On met le plastique à usage unique de côté en utilisant de la vaisselle en carton ou encore mieux, réutilisable, en oubliant bien sûr les pailles en plastique. Ah oui, il en existe en carton si vous en voulez vraiment. Et on choisit des produits vendus en vrac et des fruits et légumes sans emballage.
Nous sommes d'accord, hein, le plastique, ce n'est plus fantastique du tout. Les spécialités culinaires françaises ne sont pas faciles à épeler, figurez-vous.
C'est le constat des organisateurs du concours américain d'épellation Scripps National Spelling Bee. Ils se sont amusés à noter les mots qui ont été les plus difficiles à prononcer. Résultat, près d'un mot sur cinq est français. Il vient notamment du vocabulaire gastronomique. C'est le cas de pissaladière, la spécialité niçoise. Alors, est-ce que vous savez les plaies?
Ah, ben, pissaladière.
P-I-2-S-A-L-D-I-E-R, un accent grave, et puis R-E.
Oui, bien clafoutis.
C-L-A-F-O-U-T-I-S, il y a un S avec clafoutis.
Il y a un S, il y a un piège.
Alors, et un clafoutis ne se fait qu'avec des cerises. Hein. C'est vrai qu'on a détourné un petit peu le mot pour le faire avec des pommes et des abricots, mais c'est uniquement avec des cerises.
Et les noyaux, Laurent.
Et les noyaux, ah oui, c'est le débat du noyau, absolument, Yves Condebord.
Alors, la finale du concours se déroule lundi sur la chaîne américaine ESPN, si vous voulez suivre.
Eh bien, merci beaucoup, Marion. Alors, même si le soleil joue un peu à cache-cache ce week-end, nous célébrons officiellement l'ouverture de la saison du pique-nique. La nature est magnifique, les arbres en fleurs, un joli vert tendre partout. C'est le décor idéal pour pique-niquer et c'est l'heure d'accueillir nos invités, justement venus en couple, le chef Christophe Saint-Agne du restaurant Papillon à Paris et Laura Portelli du garde-manger, une charcuterie traiteur qui fait office de cantine de quartier dans le 17e arrondissement. Bonjour à tous les deux, bonjour Laura.
Bonjour Laurent.
Bonjour Christophe Saint-Agne.
Bonjour à tous.
Soyez les bienvenus. Alors Christophe Saint-Agne, vous faites partie de nos grands chefs cuisiniers, comme on dit. Vous avez travaillé de nombreuses années auprès d'Alain Ducasse. Les trois étoiles au Plaza et au Meurice, c'était avec vous. Laura, vous avez suivi les fameux cours de l'école Ferrandi, une institution, et vous travaillez ensemble. Depuis combien de temps vous travaillez ensemble tous les deux?
On travaille depuis l'ouverture de Papillon et du Garde-Manger depuis 3 ans.
Depuis 3 ans. Et on peut le dire maintenant, voilà, c'est un scoop, mais on va l'annoncer. Vous allez ouvrir un restaurant à la rentrée qui va s'appeler
Pique-Nique.
Et voilà, Pique-Nique. Voilà, tout simplement.
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée. C'est quoi un vrai pique-nique pour vous, Christophe Saint-Agne?
Un vrai pique-nique, c'est un repas partagé dans la joie, dans la bonne humeur, au milieu de la nature. Et on a choisi ce nom de pique-nique pour pouvoir justement se reconnecter avec cette nature, se reconnecter avec les mangeurs autour de nous et apporter de la joie dans le repas qui parfois en France est peut-être un peu sérieux. Nous, on a envie de rigoler.
Oui, et puis il faut que ce soit ludique et pratique, surtout le pique-nique, parce qu'on est en vadrouille avec les glacières, avec les contenants. Donc il faut que ce soit facile à transporter. Quel est l'ingrédient essentiel, vous diriez, pour réussir un pique-nique? De quoi on ne peut pas se passer dans un pique-nique, Christophe Saint-Agne?
Eh ben, je pense qu'il faut déjà un très bel endroit. Et puis après, en termes de nourriture, il faut quelque chose de simple que tout le monde va partager. Il faut emmener, à mon sens, aujourd'hui, beaucoup de végétal, en fait. Moi, j'ai envie, dans la nature, comme ça, de sentir une cuisine autour des herbes, autour des légumes, des très beaux pestos, voilà, des choses comme ça, très fraîches.
Absolument. Alors tiens, avant de goûter justement quelques recettes que vous avez apportées, Christophe Saint-Agne et Laura Portelli, et puis vous, amis auditeurs, on va s'intéresser un petit peu à l'origine du mot pique-nique, Olivier Pouls. Parlons de l'origine de ce mot pique et nique, deux mots réunis en fait.
Alors c'est un mot effectivement très ancien, c'est le linguiste Claude Dunéton qui en parle pour la première fois. On en parle dès 1932, on dit le pique-nique est composé de verbes piquer au sens picorer à l'époque et nique qui est une chose sans valeur, une moquerie. Donc c'est on mange des choses simples, c'est ça l'idée du pique-nique. Et finalement c'est ce qu'on a conservé.
Exactement. Alors Christophe Saint-Agne, on vous a demandé de nous chiquiser le pique-nique et de vous amuser avec les produits de saison. Qu'est-ce que vous nous avez fait pour ouvrir le bal alors?
Eh ben, on a démarré avec des asperges crues.
Ah oui.
Très souvent on s'oblige à cuire les asperges dans la cuisine française. Et ben avec Laura on a un jour quand on a été livré, on a goûté comme ça avec le paysan et on s'est rendu compte que c'était très bon. Cru qu'on n'avait pas besoin de les cuire, que ça avait un côté un petit peu carotte râpée, très croquant, très frais.
Oui. Très sucré même.
Très sucré, ça fait sortir moins d'amertume. Donc on s'est amusé à faire les carottes crues, un condiment à l'oseille pour apporter l'acidité, la fameuse acidité comme la rhubarbe de Yves.
Comme un petit pesto en fait.
Exactement.
Exactement.
Et surtout c'est de l'asperge blanche, hein, pas de la verte.
On pourrait le faire avec de la verte. Elle est un petit peu moins croquante, la verte. Et puis, elle est plus du sud de la France. Du côté de Paris, on est plus effectivement sur les asperges blanches.
Juste épluchées et crues, c'est vrai que c'est tout simple. Alors là, on est vraiment dans l'art du pique-nique. La simplicité, facile à transporter. Elle ne va pas se dégrader pendant le transport. En plus, c'est quelque chose de pratique. On va faire goûter à nos amis auditeurs.
Elle est fraîchement épluchée. Elle est très sucrée quand vous pouvez la croquer. Et donc, elle est, enfin, vous pourriez presque la manger comme un radis, en fait.
Alors, j'adore l'oseille qui va avec. Je trouve que ça donne un dynamisme. J'adore l'oseille.
Ça donne du peps, l'oseille, oui. Alors, nous avons Nathalie qui est avec nous dans le public et qui est une spécialiste du pique-nique aussi et qui est venue avec sa recette fétiche de pique-nique. Bonjour, Nathalie.
Bonjour à tous.
Vous venez d'où?
Je viens de Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne.
Très belle région. C'est quoi votre incontournable à vous, alors?
Alors, mon incontournable, ce sont les rillettes aux deux saumons, au saumon frais et au saumon fumé.
Vous les faites juste écraser comme ça avec un petit peu de crème?
C'est ça, avec un yaourt Fjord,
oui.
Avec un peu de citron, avec de la ciboulette, sel, poivre. Et j'aime cette recette parce que c'est facile à emporter, c'est facile à tartiner. Et puis en général, ça plaît à tout le monde.
Ben je vous confirme, je suis en train de les manger, elles sont très bonnes vos rillettes. C'est vrai que c'est frais, ça se tartine sur une belle tranche de pain grillé, ça Yves Candebord.
Oui totalement, c'est vraiment des plats essentiels au pique-nique, c'est des plats qui sont, j'ai envie de dire Laurent, le mot pratique.
Exactement. De la fraîcheur et du pratique, voilà le menu ce samedi à la table des bons vivants. On revient juste après un peu de musique, à tout de suite sur Europe 1.
Belle fin de matinée, vous êtes avec Laurent Mariotte jusqu'à midi et demi et la table des bons vivants aujourd'hui est dressée au soleil sur la terrasse d'Europe 1.
On pique-nique tous ensemble aujourd'hui. Le chef Christophe Saint-Agne, accompagné de Laura Portelli, nous ont préparé un pique-nique chic et pratique. Des auditeurs venus aussi nombreux et pas les mains vides. Croyez-moi, on vient de déguster déjà les belles rillettes au saumon, aux deux saumons made in Nathalie de Brie-Comte-Robert. Et puis on a plein d'autres choses encore à déguster. Christophe Saint-Agne, vous êtes le chef de Papillon dans le 17e arrondissement de Paris. Et vous avez ouvert, Laura, vous qui êtes l'épouse de Christophe, le garde-manger juste à côté. C'est aussi une façon de travailler ensemble. C'est un garde-manger qui est une petite institution de quartier qui fait traiteur, qui fait charcuterie.
C'est mes origines italiennes qui reviennent. C'est ça, hein. En fait, on mêle la cuisine de tous les jours et on la propose à tout le monde et au maximum de gens. C'est une cuisine qui est plutôt méditerranéenne, franco-méditerranéenne, avec beaucoup de légumes, beaucoup d'huile d'olive, beaucoup de saveurs, j'espère. Et qui propose de la nourriture à emporter sur place de manière assez simple.
Quel est votre plus beau souvenir de pique-nique, Christophe Saint-Agne ?
Moi, je dirais que c'est sur une plage de la Manche, ma région d'origine, avec mes frères, avec mes parents, avec du cidre, avec un camembert, avec un poulet rôti, avec ma grand-mère qui avait préparé tout ça.
C'est le moment aussi, hein, c'est la famille, c'est les amis. On est très attaché au moment. Yves Candebord, vous avez un souvenir de pique-nique dans le sud-ouest ? Je suis sûr que vous en avez plein.
Oui, j'en ai plein parce que moi, le pique-nique, c'est le Tour de France. Laurent. C'est le Tour de France, c'est le mois de juillet qu'on montait sur le Tourmalet la veille. Voilà, pour s'installer, pour voir les coureurs, pour voir ces magnifiques hommes passer en vélo, on arrivait et on était entourés de Belges, de Hollandais. Chacun avait sa spécialité et on est allé, nous, bien sûr, nos cochonailles béarnaises, là, le pâté croûte, le jambon de noir de béarnais, le chorizo. Et on avait les Hollandais qui nous proposaient leur spécialité, les Belges qui nous proposaient leur bière. Et c'est vrai que c'était le partage, cette communion qu'il y avait.
On s'en souvient. Hein.
On s'en souvient.
Olivier Poul, c'est un souvenir de pique-nique.
Et alors moi, il y a un truc, le pique-nique, c'est les œufs durs.
Ah bah oui.
L'œuf dur qu'on avec cassait. Avec le sel. Hein. Avec le sel. Et ça, c'était l'ouverture du pique-nique.
Ça, c'est vrai, vous avez raison, ça me revient aussi. Tiens. Alors c'est vrai qu'un bon produit, déjà, c'est la promesse d'un pique-nique réussi. Et nous avons Jean-Philippe qui est avec nous. Vous venez d'où, Jean-Philippe ?
Bonjour, je viens d'Antony, de la région parisienne, mais je vous ai amené des spécialités de ma ville de naissance.
Vous êtes né où ? Ah, capitale des Gaules et de la gastronomie.
Exactement.
Qu'est-ce que vous avez apporté ?
Et j'ai amené un saucisson sec de Lyon. Et puis de la cervelle de canut.
Ah, alors expliquez ce que c'est que la cervelle de canut, parce que les gens qui n'aiment pas les abats vont avoir peur, mais ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir avec de la cervelle. La cervelle de canut, c'est du fromage, on fait sel qu'on bat. On rajoute du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre et des herbes.
Des échalotes un petit peu
un
aussi.
Un petit peu d'échalotes, de la ciboulette, plein d'herbes, tout ce qu'on a sous la main comme herbe.
On l'appelle ainsi parce que les ouvriers tisserands des quartiers de la Croix-Rousse
ça remplaçait le. Il n'y avait pas les moyens de s'acheter de la cervelle d'agneau, donc ils utilisaient la cervelle de canut.
Et en tout cas, ils sont très intelligents d'avoir inventé cette recette parce qu'elle est délicieuse et elle fait encore les beaux jours aujourd'hui de la cuisine lyonnaise et française, parce qu'une cervelle de canut avec des petites pommes de terre primeur, ça pour un pique-nique, c'est super.
Ouais, ça fait partie des traditions maintenant, je dirais, c'est même plus que lyonnais, c'est complètement français. On se l'est approprié dans toutes les régions de France. Et c'est vrai que c'est un plat référence, c'est un plat qui a du goût.
Ça rappelle aussi les racines un peu ouvrières du pique-nique. C'est-à-dire que c'est un repas qui était partagé par tout le monde, surtout au moment où les congés payés ont commencé à exister. Donc ça a été démocratisé à ce moment-là.
Alors le sandwich fait aussi partie des incontournables du pique-nique. Et vous, Laura, vous avez décidé de moderniser, de customiser un sandwich qui est un petit côté italien, vos racines. Hein.
Bah oui, malheureusement, je suis d'origine italienne.
Ah bah non, pourquoi, vous plaisantez pas.
On adore l'Italie. Pourquoi malheureusement ?
Alors moi aussi, j'ai ma Madeleine de Proust du pique-nique, c'est-à-dire celui que ma mère préparait parce que sa grand-mère le préparait et ainsi de suite. Et c'était un sandwich qui était à base donc, d'un pain plutôt blanc, qui était avec de l'aubergine, du bœuf et beaucoup de citron, beaucoup d'acidité. Et en fait, à chaque fois, ce qui est formidable en Italie, c'est que tous les ingrédients, on a beaucoup de chance, on a du soleil là-bas, donc on a des légumes qui ont le goût du soleil. Et ensuite, les gens ont l'habitude, la culture de prendre les ingrédients qui sont en bas de chez eux. Donc il y a un côté très écolo, en fait.
Comment vous l'appelez, ce sandwich ?
Della nonna. Si on devait lui trouver un nom.
C'est ça. Mais on appelle ça les tramezzini en Italie, c'est
exactement.
Ça
exactement.
C'est les sandwichs triangles, quoi.
Alors, ça sera le tramezzini della nonna.
Oui, parce que le sandwich triangle, il a aujourd'hui une autre connotation.
On l'oublie le sous-vide.
Totalement pour le.
Non, non, avec un joli pain et tout ça, on va le faire goûter à nos auditeurs, justement.
Une belle aubergine grillée, du citron cédra qui nous vient d'Italie, dans l'occurrence. Et puis un bœuf mariné, presque cru, coupé en fines tranches.
Le pique-nique, c'est aussi écologique, en fait. Hein. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure dans le journal de la cuisine du plastique. On arrive à la fin du plastique. On a compris qu'il fallait arrêter avec ça. On a d'ailleurs le Bureau de la Terre qui nous a fourni des couverts complètement écolos en bois recyclés. Il y en a en bambou, il y en a en carton. Donc on peut pique-niquer écologique aujourd'hui, Yves Candebord.
Oui, complètement. On doit pique-niquer écologique. J'ai envie, mais on doit vivre écologique aussi, Laurent.
Comment ?
Et après,
comment
aussi, le pique-nique, c'est aussi, tu vois, c'est un anti-gaspille aussi. Parce que des fois, on se demande quoi faire. Mais ouvrez le frigo, prenez les restes.
Et vous arrivez toujours à les assembler, de faire une belle salade, de faire une belle crudité, d'y rajouter peut-être une céréale. Il y a toujours moyen avec les restes de se faire un joli pique-nique à moins de prix.
C'est vrai que de belles salades, on connaît les salades de pâtes, on connaît les taboulés, mais utilisons de l'orge perlée, utilisons de l'épeautre, des céréales comme ça un petit peu laissées de côté pour faire la base d'une belle salade et c'est magnifique ça.
Et puis moi je trouve qu'on peut aussi en pique-nique emmener une belle vaisselle qu'on va bien évidemment ramener chez soi après, mais je trouve que ça fait, c'est agréable de manger. Moi les assiettes en plastique, je ne suis pas un fan, les assiettes en carton non plus pour être honnête. Amener des belles assiettes de chez vous,
c'est vrai.
Beau verre, une belle nappe, c'est quand même très chic. Et puis surtout, bah, vous les ramenez et vous les lavez.
Et on ne laisse pas les déchets dans la nature. Bien entendu, on ramène tout. Hein. C'est insupportable de voir ceux qui laissent traîner des choses. Là, oh là là, que ça nous énerve ça. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec de nouvelles idées. Il y aura du sucré et puis la chronique de Jean-Luc Petit-Renaud. Un as du pique-nique, vous pensez bien. A tout de suite sur Europe 1.
Merci de nous rejoindre, cet Europe 1, le samedi de 11h à 12h30. Vous écoutez Laurent Mariotte, entouré de son équipe et de ses invités. Bienvenue à la table des bons vivants.
Le pique-nique, c'est fantastique. Aujourd'hui, nous sommes sur la terrasse d'Europe 1 avec nos invités, nos auditeurs pique-niqueurs et Christophe Saint-Agne et Laura Portelli du restaurant Papillon et du Garde-Manger à Paris dans le 17e arrondissement. Deux très belles adresses qu'on vous conseille vivement. Alors c'est vrai que même si le soleil joue à cache-cache, la saison des pique-niques est ouverte. On va y avoir droit comme ça, mais jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'à l'été indien, on peut pique-niquer sans aucun problème. Vous êtes d'accord, Christophe Saint-Agne, hein ?
Moi j'adore ça, c'est mon repas favori, j'adore manger dehors.
On est allé cueillir de belles fraises tout à l'heure en Sologne avec Marion Sauveur. On vous a donné ces fraises, Christophe Saint-Agne, et à vous Laura Portelli, pour imaginer justement un dessert de pique-nique, mais voilà, un petit peu chiquisé comme vous savez le faire dans votre établissement. Qu'est-ce que vous nous proposez alors ?
Ben, l'idée, c'était en fait de regarder ce qu'on avait autour de nous dans la nature, de s'inspirer de la nature. Alors on s'est dit que le miel, l'huile d'olive et le basilic pourraient faire un assaisonnement formidable. On a rajouté un petit peu de jus de citron pour donner la bonne acidité. Et puis les racines italiennes de Laura ont parlé et on a mis une burrata de façon à apporter le côté crémeux, bio. Le côté fromage.
Une burrata bio forcément, qui a du goût, qui a du caractère. La burrata avec la fraise, alors c'est vrai que ce sont des accords comme ça qui peuvent un petit peu surprendre. Vous avez revisité en fait la tomate mozza avec la fraise en dessert quoi.
Exactement, la fraise est un fruit comme la tomate, donc elle se marie parfaitement.
Yves Candebordes, vous l'inventeur de la bistronomie, qu'est-ce que vous nous proposez pour pique-niquer ce week-end ou les prochains week-ends?
Mais moi, ce que j'aime quand je fais des plats pour le pique-nique, c'est voilà, jouer un peu sur le contraste. C'est vrai que quand on parle de pique-nique, on a toujours un peu pensé très rapidement à la charcuterie, qui est quand même un élément essentiel aussi de ma vie, j'ai envie de dire. Parce ben que oui. La vie, c'est le gras, il faut le savoir, Laurent. Hein.
Vous avez été élevé au cochon, bien élevé, voilà, il faut le dire, c'est
alors,
important.
Alors, je me suis amusé à faire un petit twist, et c'est une recette que j'adore. C'est des aubergines qui ont été marinées.
Oui.
Une aubergine qui a été marinée avec un vinaigre de grenade, et avec laquelle, dessus, j'ai déposé des graisses rondes de cochon.
C'est quoi les graisses rondes de cochon?
Alors, les graisses rondes de cochon, c'est quand on fait des confits de cochon, c'est toutes les petites particules qui se baladent hors cuisson. Qu'on récupère, qu'on filtre, et après on les moule dans une terrine et on tranche.
C'est un peu comme une rillette un petit peu plus grasse, on va
voilà,
dire.
Voilà, c'est une rillette avec plus de morceaux, avec plus d'onctuosité. Et on l'a agrémenté avec une petite roquette, avec un petit fromage de brebis des Pyrénées.
Il se régale, Christophe Saint-Agne. Vous venez de goûter la belle salade de notre ami Yves Candebordes.
Les aubergines avec le cochon, c'est magnifique. Ouais, on est dans le Béarn quand on mange ça. C'est ça qui fait vraiment du bien, c'est que ça a une identité.
Et puis votre fraise aussi, elle a une identité. Là, avec cette burrata, le miel et le basilic, c'est un très bel accord. Ça, c'est doux, c'est laitier, c'est lacté. Il y a ce petit côté riche, crémeux de la burrata qui vient adoucir et arrondir la note acidulée de la fraise. Ce sont des desserts tout simples. Alors à faire en pique-nique ou à faire ce week-end à la maison, évidemment, si on reçoit ou si on est entre nous. Un autre incontournable du pique-nique, évidemment, c'est le cake, c'est le gâteau. Et je crois que Véronique n'est pas venue les mains vides. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Vous venez d'où ?
Du nord de la Seine-et-Marne.
Du nord de la Seine-et-Marne. Alors vous êtes cake, vous êtes gâteau, vous êtes quel genre de pâtisserie pour le pique-nique, vous ?
Moi, j'ai fait un gâteau familial, un des gâteaux qu'on apprend quand on est petit, c'est le gâteau au yaourt.
Ah oui, le fameux, avec le pot de yaourt voilà. Pour doser et avoir justement un seul élément de mesure.
Voilà.
Et vous l'avez customisé.
Ah oui, on l'a avec nous là. Il est bien parce que, dis donc, il est moelleux et il est encore humide. Moi, j'adore ça, c'est pas sec en fait, votre gâteau.
Non, non.
Il y a quoi ? Il y a de la pomme dedans ?
Il y a de la pomme et il y a des pépites de cranberry.
J'ai mis
du sucre glace à la vanille.
Ah ben il est très bon. Yves Candebordes, c'est un classique qui marche à tous les coups.
Oui, c'est un classique qui marche à tous les coups. Faut-il, Laurent, le réussir ? Et là, en l'occurrence, moi, ce que j'aime, c'est l'humidité qu'il y a dedans.
Très, très bien.
Et croustillant à la surface. Bravo, Véronique.
Croustillant à la surface, humide à l'intérieur. Et du coup, c'est digeste et plaisant.
Elle vient d'où, cette recette ? C'est vous qui l'avez inventée ou on vous l'a transmise ?
Bah, comme je vous ai dit, la base du gâteau yaourt, on l'apprend quand on est petit, avec les mamans, les mamies. Et après, moi, je mets un peu ce que j'ai. Hein, voilà,
oui. C'est vrai qu'on peut s'amuser à en créer plein de sortes. On pourrait mettre de la fraise dedans, par exemple, puisqu'on est en pleine saison. On peut jouer en permanence avec cette base.
De la banane, quand c'est l'hiver.
J'ai de la rhubarbe dans mon jardin, je ne sais pas si je peux en mettre.
Si, il faut la faire égoutter un petit peu, en fait, hein, parce qu'elle rend beaucoup d'eau, la rhubarbe, Yves Candeborn.
Oui, c'est vrai que la rhubarbe, quand on la monte à haute température, elle a tendance complètement, étant donné que c'est un pourcentage d'humidité qui est très élevé, elle a tendance de rendre beaucoup d'eau. Ce qu'il faut faire avant, c'est peut-être un peu la sucrer avant. La mettre la veille dans une passoire avec du sucre dessus, la laisser à température ambiante durant toute la nuit. Comme ça, elle va s'égoutter naturellement et après, la mettre dans le gâteau.
Ah, ben, j'essaierai.
On revient quand même toujours à la dimension généreuse du repas, du pique-nique, et presque familial en fait. C'est un repas qui peut être préparé ensemble, c'est-à-dire avec des tout-petits, des grands, des plus âgés. Il y a un côté hyper presque d'héritage en fait dans la notion de pique-nique. C'est très ouvert.
Christophe Sainterne et Laura Portelli, vous allez ouvrir à la rentrée dans le premier arrondissement une nouvelle adresse qui s'appellera Pique-Nique. Quel type de cuisine? Alors, on va manger par terre sur des nappes? Racontez-nous ce qu'on va manger à Pique-Nique.
On va manger une cuisine qu'on partage, joyeuse, simple, abordable et beaucoup à base de ce qu'on a vu là devant vous dans les recettes qu'on a préparées. C'est-à-dire à base de légumes, d'acidité, quelque chose un repas sain qu'on peut partager tous ensemble et avec plein de plats sur la table, très généreux, très gourmand.
Eh bien, merci d'être venu, Christophe Sainterne et Laura Portelli. En attendant l'ouverture de Pique-Nique, on vous retrouve, merci, vous, chez Papillon, Christophe Sainterne, et au garde-manger juste à côté. Et je crois que, Christophe Sainterne, vous allez signer aussi la carte d'un grand restaurant parisien prochainement. On peut le dire.
On en parle en ce moment, c'est temps pour parler. J'espère que ça va se faire, oui, qu'on pourra vous retrouver à la rentrée dans un lieu prestigieux.
D'accord, eh bien voilà, on vous suit en tout cas. Merci Laura Portelli et merci Christophe Sainterne d'être venu avec nous.
Europe 1, 11h, 12h30. Laurent Mariotte.
Bientôt midi, moelle quart. Alors, s'il y en a un qui ne plaisante pas avec le pique-nique, c'est le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Vous pensez bien, pour lui, c'est tout un art. Et ça commence, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, ça commence par choisir un bon endroit. Bonjour, bonjour, l'ami Jean-Luc.
Bien bonjour, les bons vivants. Eh bien, figurez-vous que le pique-nique, je suis un aficionados. Mais attention, un pique-nique, ça se prépare. Alors, il y a une chose, c'est qu'on n'est jamais d'accord sur le lieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a un qui s'approche et qui dit « On serait pas mal un petit peu là sous les arbres. »« Ah ben non, regarde là, il y a du bois qui est scié, ça pourrait nous servir de chaise. » C'est toujours un peu le cirque. On a la nappe que l'on va jeter à la volée comme une montgolfière sur l'herbe. Et là, on va sortir les verres, des vrais verres, hein, pas des gobelets en plastique. Le cristal adore descendre de ses étagères uniquement le temps d'un pique-nique. On va confier la surveillance de la bouteille de rosé à un ami. Il faut pas un rigolo qui abandonnerait la ficelle au bout de laquelle est accrochée la bouteille de rosé qui trempe elle-même dans le ruisseau. Malheur à lui si subitement la bouteille prenait le large, parce qu'on serait malheureux comme les pierres. Alors on est là tous installés, on se régale, la sieste est la bienvenue. On a les mains derrière la tête et on sommeille. Et comme disait le poète Robert Sabatier, poète auvergnat, il faut toujours faire la sieste avant d'aller dormir.
Ah ben oui, nous sommes d'accord. Joli précepte. Merci encore une fois, camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Et c'est vrai que pour un pique-nique réussi, il faut aussi un beau livre. Alors je vous rappelle Les quatre saisons d'Émile et Marcel de Jean-Luc, paru chez Flammarion. Un très beau livre où il raconte les quatre saisons de ses parents. C'est joli, c'est romancé, il y a une belle poésie. Ça, c'est un livre parfait qui est un bon compagnon pour un pique-nique. C'est bientôt l'heure d'accueillir notre invité, un comédien que vous aimez, j'en suis certain. C'est un bon vivant. François-Xavier de Maison est notre invité. Il arrive sur la terrasse d'Europe 1 et il nous rejoint dans un instant. A tout de suite les amis.
Bon week-end sur Europe 1, la table des bons vivants, c'est jusqu'à midi et demi avec Laurent Mariotte et c'est l'heure, Laurent, d'accueillir un nouveau convive.
Soyez les bienvenus, nous sommes sur la terrasse d'Europe 1 pour une spéciale pique-nique avec nos auditeurs venus de toute la France et c'est l'heure d'accueillir notre invité, un vrai bon vivant. Il faisait rire ses copains dans la cour d'école avant de se diriger vers le droit fiscal à New York. Après le choc du 11 septembre, il décide de revenir à son premier amour, la comédie. Il monte son premier spectacle et le succès est vite au rendez-vous. Au cinéma, il bluffe tout le monde en interprétant Coluche. Suivront Disco, Comme des frères, Le petit Nicolas. Il vient de triompher sur scène dans toute la France. Il revient au cinéma mercredi avec Ni une ni deux, Ni une ni deux. Le voilà, François-Xavier de Maison est notre invité. Bonjour,
bonjour François-Xavier. Bonjour.
Ah, et un petit bruit de tire-bouchon pour vous accueillir.
Pour vous accueillir, parce que je sais que vous n'êtes pas insensible.
On va en parler tout de suite. C'est vrai que le vin et vous, c'est une histoire d'amour. Et vous faites d'ailleurs votre propre vin, François-Xavier Demaison.
Modestement, dans le Roussillon, j'ai une petite production. Enfin, 600 blancs, 600 rouges, en barrique pour l'instant.
Et elle est où alors, la bouteille?
Écoutez, les barriques sont chez nos amis du domaine de l'Erdre, Jacques et Soussou, que je salue.
Il n'a pas entendu,
mais oui, c'est ça, sourd. Elle est où, la bouteille?
Bah, écoutez, non, je ferai goûter dans quelques mois, mais là, il vieillit.
Il est en élevage.
Il prend un peu de bois.
600 bouteilles, c'est peut-être juste pour la consommation personnelle et des amis.
C'est pour l'été, c'est un été.
Alors, avec plaisir, avec modération, bien entendu, vous pensez bien.
Ah oui, c'est vrai.
Hein, le fameux...
La modération.
La fameuse modération. Ni une ni deux, Dan Jaffery sort mercredi, François-Xavier Demaison. C'est avec vous et Mathilde Seigné. Vous jouez le rôle de Jean-Pierre, l'agent de Julie, interprété par Mathilde Seigné. Une actrice qui a subi une opération de chirurgie, qui est un peu défigurée et qui doit trouver donc un sosie, une doublure.
Voilà, c'est un petit massacre chirurgical et esthétique. Elle ne peut plus tourner. Elle va, un peu comme dans Tootsie, vous savez, ça
retourne
un peu sur ses impostures qui sont le point de départ d'une très belle comédie.
Avec des rebondissements, on ne peut pas tout dire parce qu'il y a déjà des rebondissements.
Pas, exactement, mais c'est un film vraiment que j'aime beaucoup, très bien écrit par Anne Jaffery et ça a été un plaisir de tourner avec ma copine Mathilde Seigné.
Alors, votre première réplique, d'ailleurs, je l'ai noté dans ce film, c'est « Viens, j'ai réservé dans un bon restaurant
». Voilà.
Hein, voilà. Donc, on vous reconnaît bien là quand même.
Oui, c'est ça.
Et Mathilde Seigné dit d'ailleurs, en jouant son rôle, « Une actrice, ça ne mange pas, mais un acteur, ça mange ».
Oui, ah oui, ça, hein, mange. Bah oui, ça
mange.
Il y a aussi une réplique dans le film qui, à un moment donné, elle dit « Je pose mon verre si je veux
». Dimanche, c'est la fête des mères, François-Xavier Demaison. Vous avez une idée de cadeau, c'est fait déjà?
C'est des pivoines, généralement, parce que ma mère adore les pivoines.
Ah, c'est une belle fleur.
Sinon, je lui ai fait un collier de nouilles, mais bon.
Mais ça marche toujours.
On verra.
Alors, on va vous donner une idée de cadeau de dernière minute. C'est un appareil électroménager pour les mamans qui aiment la pâtisserie, justement. Et ça peut être une idée de cadeau de dernière minute, hein, Saïf Candebord.
Oui, tout à fait. Alors, Laurent, vous allez me dire encore un robot de plus.
C'est ça, vous avez testé un robot culinaire qui est sur le marché actuellement.
Qui est sur le marché actuellement. C'est un robot qui est assez étonnant, pour vous dire la vérité. C'est un mini-four. Voilà, où on peut faire des gâteaux sans aucune complication. Il suffit d'avoir une recette, de mélanger des ingrédients. Quand vous préparez un appareil à madeleine ou un appareil à financier ou un appareil à coco, vous le mettez dans les moules, vous le mettez dans votre appareil. Il y a des programmes qui sont préparés. Il suffit d'appuyer. 35 minutes après, vous avez un gâteau. Je vous en ai fait, Laurent, regardez. Je vous en ai préparé.
Ils sont jolis, ils sont bien colorés,
ils sont
bien dorés.
Ils sont bien colorés, ils sont jolis, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que gustativement, c'est assez agréable.
C'est juste un mini-four, votre truc, alors?
C'est un mini-four, oui, c'est un mini-four, mais ça n'a pas les caractéristiques d'un four. On ne peut faire que des gâteaux.
D'accord.
Et c'est quand même destiné aux gens qui ne savent pas faire de la pâtisserie. C'est un bon moyen de leur faire de la pâtisserie. Ça va les mettre en confiance, peut-être pour après... continuer sur autre chose.
On va faire passer ce dessert à nos auditeurs qui
sont dans un vrai four, ça marche
public.
Aussi.
Ça marche aussi.
Alors bien sûr, je vais vous dire que c'est mieux dans un vrai four, c'est mieux de le faire dans une plaque traditionnelle un peu en fer, où il y aura la caramélisation, où il y aura une texture différente et un goût différent, mais ça donne un résultat très étonnant. Alors, je vous en ai lancé en début d'émission,
Alors
je vais aller les chercher.
Voilà, ils sont beaux. Ah, ils ont bonne mine. On va demander, tiens, aux mamans qui se trouvent
alors,
dans le public, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous plaire, vous tenter ça? Ah, pas du tout, j'entends. On a de vraies cuisinières, elles veulent le vrai four. Pas du tout, j'ai entendu.
Je suis d'accord avec Laurent. Je préfère utiliser mon four. Ah oui, c'est vrai que vous allez me faire goûter votre gâteau, je ne peux pas refuser. Merci. Je vous dirai après, mais j'aime bien quand même allumer le four et regarder cuire, regarder
mon gâteau. J'ai bien dit que ce n'était pas pour les mamans qui savaient déjà faire de la pâtisserie.
Alors, votre prénom, madame ?
Anne de Bourgogne.
Anne de Bourgogne, c'est vous ?
C'est vous, Anne de Bourgogne ? Qu'est-ce que vous en pensez, Anne de Bourgogne, alors ?
Le gâteau est très bon.
Alors, c'est un petit cake citron et graines de pavot.
C'est pour un premier pas en pâtisserie, quoi, en fait.
Ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Philippe d'Orléans, juste à côté.
Je l'offrirai à mes petits-enfants, à ma petite-fille, pour qu'elle puisse me faire des petits gâteaux.
Alors, vous avez totalement raison. Voilà. Je trouve que c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment un cadeau pour une maman qui ne sait pas faire la pâtisserie, pour lui apprendre, et en plus, elle va rendre ses enfants heureux. C'est quand même pas mal.
Et bien, on retrouvera les références sur europe1.fr. Ça peut vous tenter, François-Xavier Demaison ?
Mais oui, et puis surtout que je pense que vraiment, c'est adapté à certaines petites pâtisseries comme ça. Et puis, j'ai l'impression que c'est très rapide, quoi. Donc
Non, il n'y a vraiment aucune... Il y a plus de préparation du mélange de base et après, ça se fait tout seul. Et en plus, une fois que c'est cuit, ça s'arrête automatiquement. Donc, ça peut rester tranquillement dans l'appareil. C'est vraiment, je trouve, très ludique et très pratique à faire.
Il est bientôt midi sur Europe 1, nous continuons notre spécial pique-nique. Est-ce que vous aimez les pambagna, François-Xavier de Maison?
Ah, c'est pas mon...
Parce que vous êtes peut-être justement avec des vieux souvenirs de pambagna pas faits dans les règles de l'art.
Spongieux.
Ah oui, alors il faut qu'il soit imbibé le pambagna. On va en parler justement, mais il y a une règle en ce qui concerne les ingrédients. On revient juste après parce que c'est un bel essentiel du pique-nique. Ce sera juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. A tout de suite sur Europe 1.
Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver à la table des bons vivants. Nous sommes installés sur la terrasse d'Europe 1 avec des auditeurs invités pour l'occasion. Et avec notre invité, le comédien François-Xavier de Maison, à l'affiche actuellement au cinéma de Ni Une Ni Deux. Un joli film et une belle comédie avec Mathilde Seigner, un beau duo. Vous avez une passion commune d'ailleurs, je crois, avec Mathilde, c'est Michel Sardou. Vous avez chanté Sardou à tue-tête. Bienvenue au club.
Oui, c'est vrai qu'on a, on revisite le répertoire de Michel Sardou, mais souvent en fin de soirée.
En fin de soirée, c'est ça, en troisième mi-temps.
En troisième mi-temps.
Alors, on a dégusté des fraises de Sologne au début de l'émission, des asperges crues avec un pesto d'oseille, tout à l'heure avec Christophe Saint-Agne, une belle salade de Yves Candebord. Redites-nous ce que vous aviez mis dans votre salade, Yves.
Alors, des aubergines confites avec des graisserons de cochon.
François-Xavier de Maison, vous êtes un gourmet, un gourmand. Le marché, c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Le choix des bons produits, c'est important pour vous ou vous laissez faire par votre entourage?
Quand on est peu cuisinier comme je le suis, c'est fondamental. Donc, effectivement, c'est meilleur le produit est, le moins de transformation il y a besoin. Donc,
vous aimez bien manger, mais vous n'êtes pas forcément un as de la cuisine, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je dis souvent. Je cuisine, mais toujours dans le respect du produit. Voilà. Mais c'est vrai que le marché de Tuir, c'est un vrai plaisir. Quoi. Dans le Roussillon, là où j'ai ma petite maison, on fait ça le samedi matin. J'adore. Le fromager qui vous fait goûter tous les petits fromages, tout ça, j'adore.
Le contact avec le produit local. Oui. Le vin, ça vous est venu d'où cet amour du vin? Parce que vous en parlez très bien, vous connaissez très bien les vins. Olivier Pouls pourrait vous embaucher aussi avec lui à la revue du vin de France.
On est en négociation.
Hein. Ah oui,
c'est mon transfert.
Ça vient d'où, ça, cet amour du vin?
Familial d'abord. J'ai baigné dans une famille d'amateurs. Mon père adore ça. Il adore les restos, il adore le vin. Et puis les tournées, je crois. J'ai joué mes spectacles à chaque fois, 250 fois en province, et à chaque fois j'ai fait des rencontres extraordinaires avec des vignerons, des cavistes, des sommeliers. Et voilà, donc j'ai une curiosité qui est quand même très large. J'aime toutes les régions en fait.
On le disait tout à l'heure, vous avez démarré avec une carrière de fiscaliste aux États-Unis.
Hein, c'était mal barré.
Ce qui n'est pas commun pour un humoriste. Ouais. Vous avez des souvenirs de goût, des souvenirs de table là-bas?
Aux États-Unis, oui. Moi, j'aimais bien les steakhouse, j'aimais bien Peter Luger à Brooklyn ou le 21 Club. Et puis, j'y suis retourné récemment. Il y a un restaurant génial qui s'appelle Racine dans Tribeca, avec une sommelière qui s'appelle Pascaline Pelletier, qui est absolument extraordinaire. Et c'est une ville qui se réinvente tout le temps, aussi au niveau culinaire.
L'art de la grillade, parce que c'est vrai que là-bas, on ne découpe pas les viandes comme chez nous en plus. Ouais. Hein, c'est pas la même façon.
Oui, et puis j'aime bien ce rituel du steakhouse, cette ambiance. Là-bas, c'est ce que je préfère.
Alors, on va prolonger notre spécial pique-nique avec un incontournable du pique-nique, surtout quand on habite dans le midi du côté de Nice. C'est le pambagna. Et je peux vous dire une chose, François-Xavier de Maison, là-bas, on ne rigole pas du tout avec le pambagna. Il y a même une charte, il y a même la commune libre du pambagna, n'est-ce pas, Marion Sauveur?
Oh oui, hein, avec des ingrédients très officiels pour entrer dans ce pambagna. En fait, tout simplement, c'est ce que vous avez le droit uniquement de mettre dans une salade niçoise.
Et ça, pareil.
C'est très réglementé.
Oui, mais alors, elle a tellement été galvaudée aussi, la salade niçoise. On va rappeler que le seul ingrédient cuit qu'on peut mettre dans ce genre de salade ou de pambagna, c'est l'œuf dur, mais pas de haricots verts, pas de pommes de terre, non. Pas de riz, surtout pas de choses comme ça. Hein.
Surtout pas. Alors, du pain, des tomates, des radis ou des cébettes, des petits poivrons verts, du thon ou des anchois. Vous avez dit l'œuf dur, il y a aussi du basilic, des olives noires, de l'huile d'olive, du sel, du poivre.
Qui va nous faire ce pambagna alors?
Alors c'est Philippe Jourdain qui est un chef étoilé, meilleur ouvrier de France, qui est passé par l'arrière-pays niçois et qui est amoureux de cette cuisine niçoise. Elle fait partie de sa cuisine au quotidien. Il est installé au Faventia à Tourette, c'est dans le Var, et donc il a réalisé avec moi ce pambagna.
On va couper notre fameux pambagna
en deux.
Un pain bien rond. Ensuite, les tomates, elles ont mariné une trentaine de minutes. Il faut bien mettre du sel, qu'elles perdent un petit peu leur eau de végétation. Ce liquide, je vais le récupérer. Je vais rajouter de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre. Et on va tremper les tranches de pain dedans. Je fais de façon à ce que la mie s'imprègne Donc ensuite, vous allez mettre vos petites tomates. On dispose nos artichauts.
Pareil, en rosace sur la tomate.
Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive sur l'ensemble de mes légumes.
Au dernier moment, avant de les mettre.
Voilà, une petite pointe de vinaigre.
On sale.
On poivre. Et après, vous le mélangez délicatement. On goûte. Et après, on parsème. Un petit peu de cébette. Le céleri branche émincé. Des petits radis. Ensuite, vous avez quelques œufs durs. En tranche.
Alors on rajoute après l'œuf quelques olives. Hein.
Quelques olives et du basilic. Je le cisèle légèrement. Et à la fin, on va rajouter un petit morceau de thon confit à l'huile d'olive. Voilà, vous recouvrez avec le chapeau.
Alors là, vous êtes en train d'appuyer.
Hein. On appuie un petit peu. Et là.
On entend, ça s'imprègne.
Ça s'imprègne, voilà, exactement. Allez, on croque.
Il faut faire attention, hein, ça en met un petit peu de partout. Hein.
Ah mais ça, c'est le pain bagnat, on en met de partout.
Et voilà, et oui.
Et oui, ça dégouline le pan bagnat. C'est vrai que d'ailleurs, pan bagnat en occitan, ça veut dire pain humide, pain imbibé en fait, hein, c'est ça.
C'est ce qui explique effectivement que ce soit un pain bien imbibé de cette sauce, de cette huile, de ce vinaigre, et c'est délicieux. C'est ça qui donne toute la gourmandise à ce pain bagnat.
Alors nous avons demandé à Yoni Saada qui a ouvert un établissement qui s'appelle Bagnard à Paris, où on peut déguster de bons pan bagnat. Il nous en a livré quelques-uns. C'est une belle cantine méditerranéenne rue de Saint-Onge, dans le 3e arrondissement de Paris. Verdict, François-Xavier de Maison.
Très très bon, très très bon, et donc ça, ça confirme ce qu'on voilà, c'est effectivement on a des recettes qui ont été détournées et qui du coup qui se galvaudent un peu, alors que quand on vient en fondamentaux, ben on se régale et c'est merveilleux quoi.
Un pain bien généreux. On peut faire des pains un petit peu plus discrets aussi, Yves Candebordes, si on veut avoir plus de légumes par exemple à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est cette gourmandise entre le croustillant et puis la texture de tous ces légumes de printemps. On pourrait mettre des fèves aussi et des artichauts par exemple.
Oui, comme le disait Marion, de toute façon le pain bagnat c'est comme la salade niçoise, ça se fait avec des légumes de saison crue quoi. Pour simplifier un peu la recette, c'est ça, c'est des légumes de saison crue. Et c'est vrai que sur le pain bagnat qu'on a là, qui est excellent, les ingrédients qui sont dedans, c'est remarquable. Et c'est vrai que l'important de tout ça, c'est que justement ce que expliquait Philippe dans le reportage, c'est que le pain s'imprègne du jus de tous les ingrédients. Et c'est là que c'est bon. Parce que quand on le mange, ça l'a presque bavé, Laurent.
Oui, il faut que ça
dégouline.
On doit dégouline.
Presque s'en mettre un peu sur la
chemise. Et bien sûr,
la bougnette, c'est la gourmandise. Il faut la garder, la bougnette, sur la chemise.
Alors moi, j'ai un petit problème technique, c'est que même parfois avec l'hamburger, comme il y a beaucoup de pain, c'est très haut, on se décroche la mâchoire pour essayer de le manger.
On peut rester bloqué parfois.
Comment faire?
Il y en a qui sont restés bloqués. Qu'est-ce qu'on boit avec un pan bagnat, alors, Olivier?
On va rester évidemment local. Hein. On va parler dans un instant des vins rosés, avec tout ce qu'il y a dedans, tous ces ingrédients de salade niçoise, un vin rosé de Provence bien sûr, mais qu'on va bien choisir parce que en matière de vin rosé de Provence, il y a du bon, du moins bon et du pas bon du tout.
Et comment? Eh bien, on va vous aider à vous y retrouver justement. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec François-Xavier de Maison et nous allons répondre aux questions que vous, amis auditeurs ici, vous allez nous poser à propos du pique-nique et des recettes incontournables. A tout de suite sur Europe 1 et bon samedi midi.
Laurent Mariotte vous accompagne jusqu'à midi et demi tous les samedis sur Europe 1. Vous êtes invité à la table des bons vivants, spécial pique-nique ce samedi.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants ce samedi midi. Nous sommes sur la terrasse d'Europe 1 en plein air et en public avec des auditeurs venus avec leurs recettes et leurs questions. Et François-Xavier de Maison, bon vivant.
Et qui est venu pour tester.
Et bon comédien est venu partager ce joli moment avec nous. Vous êtes à l'affiche de Ni Une Ni Deux. On le disait, donc une comédie avec Mathilde Seigner. Vous jouez le rôle de Jean-Pierre, l'agent d'une grande actrice qui prend un sosie pour la remplacer suite à un accident de chirurgie esthétique, on va dire.
Voilà, ce sont des choses qui arrivent.
Et oui. Et toute ressemblance avec des personnages ayant existé est totalement fortuite. Hein.
Totalement.
Totalement, nous sommes d'accord.
Totalement. Et non, mais c'est une vraie performance de Mathilde qui joue deux rôles.
Exactement.
Et ça raconte plein de choses sur le métier. Et depuis la série 10%, on a compris que ça intéressait vraiment les
gens.
C'est
vrai, on est un peu dans cet univers-là, dans les coulisses. On joue à la petite souris dans le monde des comédiens,
exactement,
des réalisateurs.
Exactement.
Vous avez reçu la plume d'or de la gastronomie et du vin en tant que gourmet.
Oui, c'est mon ami Paul M. Salem qui organise ça et qui m'avait fait cet honneur. C'est les grandes tables du monde qui avaient, qui décernent chaque année un prix à un bon vivant. Et ils avaient estimé que j'avais assez bouffé, assez picolé cette année pour la mériter.
En fait, le pique-nique ce samedi midi, François-Xavier de Maison, quel est votre plus beau souvenir de pique-nique à vous? Vous avez des souvenirs de...
Oui, c'est les pique-niques en Corse, dans les petites criques. C'est des œufs durs. Moi, généralement, je trouve ça génial. C'est les petits sandwichs que nous préparait amicalement José Salge, mon cousin, à Saint-Florent. Et on allait dans des petites criques comme ça. On prenait un œuf dur ou une tomate. Vous mettez un peu de sel, un peu d'huile d'olive et hop, la tomate comme ça tout de suite.
Et on va à l'essentiel. Voilà, c'est la gourmandise, le rafraîchissement de la tomate. N'oublions pas que c'est en plein été qu'il faut manger les tomates. Ça commence seulement maintenant dans le sud.
Oui.
C'est pour ça qu'on a fait un sandwich tout à l'heure pambagna. Mais voilà, les tomates, c'est pas en hiver. Ça commence à peine maintenant, la tomate, hein, qu'on soit bien d'accord.
On est bien d'accord.
Alors, c'est l'heure de poser vos questions, amis auditeurs, vous qui êtes sur la terrasse d'Europe 1. Alors tiens, Sandrine, vous êtes très active d'ailleurs sur le groupe Facebook des Bons Vivants. Les auditeurs qui vont sur cette page vous connaissent parce que vous faites de belles photos. Vous cuisinez beaucoup, Sandrine.
Oui, bonjour Laurent et toute l'équipe. Ben oui, je cuisine, j'adore la cuisine. Les pâtisseries en particulier.
Oui, vous faites de tout, du sucré, du salé.
Du salé, voilà.
Alors une question, on vous écoute, tiens.
Alors la question, c'est concernant le pique-nique, c'est comment conserver au mieux la glacière? Parce que souvent, elle a un coup de chaud et on a toujours peur, surtout pour tout ce qui est crème, à base de crème, de terrine et tout ça. Et on se dit, la pauvre...
Mais il ne faut pas laisser traîner, il faut manger tout de suite. Il faut sortir tout de la glacière et il faut manger, il faut la mettre à l'ombre, la glacière. Yves Condebord.
Malheureusement, Laurent, je pense que vous avez donné la bonne solution. Après, il y a une petite astuce avec les bouteilles d'eau. Là, quand vous amenez les bouteilles d'eau, la veille, vous les mettez au congélateur. Le fait de la mettre dans la glacière, elle va fondre tout doucement. Alors, vous allez pouvoir la boire de l'eau fraîche et en plus, elle va glacer les aliments qui sont autour d'elle.
Bon, le joli coin de rivière, comme disait tout à l'heure Jean-Luc Petit-Renaud, ça marche aussi pour rafraîchir les aliments et la glacière. Allez, une autre question sur la terrasse d'Europe 1. Jean-Philippe.
Oui, j'ai une question qui est un petit peu connexe. Est-ce que vous auriez une recette un petit peu de mayonnaise qui supporterait un peu plus la chaleur? Parce que vous allez me dire, vous la mettez dans la glacière, vous mettez de l'eau glacée. Mais la mayonnaise, on va la sortir, on va la laisser sur la nappe. Quelque chose qui éviterait qu'au bout d'un certain temps, quand on s'endort pour la sieste et qu'on veut remanger après, elle soit passée.
Le danger de la mayonnaise, on le sait tous, c'est l'œuf cru. C'est un œuf cru, donc ça se consomme très très rapidement. On ne peut pas la conserver très longtemps, à part à la mettre au frais, Yves Condebord.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai une astuce pour ça. C'est que je fais de mayonnaise un peu dérivée. Je fais des œufs mollets. Je mets des œufs mollets dans un mixeur. Je rajoute ma cuillère à soupe de moutarde, mon sel, mon poivre. Je mixe et je monte à l'huile d'olive. Ça fait qu'étant donné que les œufs sont cuits, ça ne va pas trancher.
Et se conserver en plus. Oui.
Et ça va se conserver plus.
Une dernière question sur la terrasse d'Europe 1 pour cette spéciale pique-nique.
Bonjour, Élodie de Paris. Ma question, c'est donc avec l'arrivée du printemps, on a plein de nouveaux légumes et de fruits. C'est quelles sont selon vous les meilleures façons de les couper ou peut-être des livres à recommander? Bon, peut-être pas pour des aubergines, mais peut-être d'autres types de légumes ou de fruits qu'on peut amener au pique-nique.
Vous avez raison, c'est vrai que le taillage des légumes, c'est tout un art et ça permet aussi de changer la présentation, les recettes, les cuissons. On peut les tailler en sifflets, vous savez, en biseaux. Déjà, ça va vous faire une petite fricassée d'asperges vertes, par exemple, ou d'asperges blanches. Ça, c'est un mode de présentation différent, Yves Condebord, si on veut jouer avec l'asperge.
C'est vrai que c'est un mode de présentation différent, mais dès qu'on taille quelque part, on coupe la fibre, on sort de l'humidité. J'ai envie de vous dire, c'est François qui a donné la bonne réponse tout à l'heure. C'est la tomate, elle est entière. On croque dedans, on met du sel. La carotte, elle est entière. Pareil, on va croquer dedans, on va la tremper par contre dans différentes sauces. L'asperge qu'on a mangé tout à l'heure aussi.
Et oui, asperge entière crue, on a mangé.
Un pique-nique, il faut prendre des légumes, des crudités qu'on peut croquer dedans. Et par contre, il faut les agrémenter de sauce, que ce soit une sauce de moutarde ou alors une sauce à base d'herbe ou ce qu'on a pu manger tout à l'heure, la cervelle de Camus. Je pense qu'il faut plus aller sur le côté croquant vraiment du légume.
Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a moins à préparer. Donc c'est super.
Et pour finir, il y a moins à préparer. Et vous savez, moi, je pense qu'il y a autre chose aussi qui est vachement important avec les enfants. De croquer dans un légume, c'est un jeu pour eux, ils s'amusent. Donc vous arrivez à leur faire manger des légumes qu'ils ne mangeraient pas s'ils avaient une carotte râpée ou une salade composée.
Eh bien voilà, merci à vous, amis auditeurs, pour vos questions. Ne bougez pas, nous allons cuisiner notre invité dans un instant, François-Xavier de Maison, avec le questionnaire des bons vivants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
C'est Europe 1, installez-vous à la table des bons vivants. Laurent Mariotte vous y accueille tous les samedis de 11h à 12h30 et en podcast sur europe1.fr.
Merci de nous retrouver à la table des bons vivants pour une émission spéciale pique-nique en public sur la terrasse d'Europe 1. Depuis 11h, on vous donne des idées de recettes pour réussir vos pique-niques. François-Xavier de Maison est notre invité et on le disait, le vin tient une place importante dans votre vie. François-Xavier de Maison,
oui.
Vous avez votre petit vignoble dans le sud.
Tout petit. Une petite production que je fais grâce au domaine de l'Erdre. À 20 gros, et c'est pour l'instant deux barriques de blanc, deux barriques de rouge qui vieillissent et que je vous ferai goûter en temps utile.
Et vous avez un autre beau lieu de vie, c'est un théâtre, le Théâtre de l'Œuvre,
oui.
À Paris. Vous avez un beau bar à vin aussi, une belle sélection.
Oui, grâce à mon ami Serge Goukassian qui m'a fait une très belle carte des vins du Rhône, grâce aux amis de la vallée du Rhône comme Solence, Fondrèche, la famille Brunier, les Perrins qui m'ont fait une très belle carte accessible
et réjouissante, avec des très bons produits. Et on va retrouver maintenant les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls, parce que c'est l'heure quand même de se mettre au rosé, Olivier.
Bah, on en a parlé tout à l'heure, on est en pique-nique, je me suis dit qu'un petit coup de rosé, ça nous ferait du bien, avec modération, mais aussi avec tous les gens qui sont avec nous. Mais le rosé, c'est vrai que c'est le vin tendance en ce moment, c'est un vin que les femmes, que les jeunes boivent de plus en plus, c'est un vin qui chaque année connaît des fortes croissances en volume, mais encore faut-il savoir le choisir.
La première chose qu'on se dit, c'est quel prix ? Quel prix je mets dans une bouteille de rosé, parce que ça commence très bas le rosé. Hein.
Oui, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, faire du rosé, ça coûte assez cher. C'est un vin qui est assez technique et donc qui demande un savoir-faire et une infrastructure. Donc autour de 5-6 euros, on peut trouver les premiers prix. Mais si on veut un rosé de caractère qui raconte quelque chose, un rosé de terroir, on va plutôt tourner autour des 10-12. Et puis des grands rosés de gastronomie, parfois on peut en trouver à 15-20 euros, qui sont des rosés de garde et qui sont des rosés qui vraiment expriment un terroir pour la plupart d'entre eux, mais pas tous.
Alors il y a une grande tendance, c'est le rosé pâle, très faiblement teinté. On pense que c'est plus léger, mais ça n'a rien à voir avec le degré d'alcool.
Non, c'est pas plus léger en alcool, c'est vraiment qu'aujourd'hui on travaille en fonction de la demande du client. Et donc les vignerons ou les grandes maisons en tout cas, ont des nuanciers de couleurs et puis font des rosés en fonction de la demande. Mais vous avez des rosés bien plus puissants, on peut parler des rosés de Tavel, par exemple, je vous ai apporté un bandol du château de Pibarnon. Ce sont des rosés qui ont de la matière, qui ont de la structure, qui ont de la puissance. Et vous voyez, c'est pas extrêmement clair, mais il y a du goût.
Il y a du goût, mais il reste léger et fruité à la fois.
Il reste équilibré. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à la nuit du rosé, pour ceux que ça intéresse, qui se déroulera à Paris le 17 juin. C'est tout un programme au pavillon Dauphine, grâce à l'agence Force 4, qui a eu l'amabilité de nous apporter quelques jolis rosés pour égayer notre pique-nique.
Il y a plusieurs façons de faire le rosé. Il y a deux méthodes, on va dire.
Oui, il y a la méthode qui se rapproche du vin blanc, c'est-à-dire qu'on va pressurer directement des raisins qui sont des raisins rouges, et avec l'effet du pressurage, le jus qui va sortir sera teinté. Et puis l'autre méthode, c'est de faire un petit peu à la manière d'un vin rouge, c'est-à-dire laisser en contact le jus et la pellicule. Et là, en fonction de la durée de macération, on va extraire plus ou moins de couleur, de puissance, de tanin. La grande mode en ce moment, c'est plutôt la première des techniques.
Si vous deviez nous donner un coup de cœur, ce serait lequel ?
Eh bien, je vais vous en donner deux ou trois. Allez par exemple à Bandol, au domaine de Terre Brune, ou au domaine de Pibarnon qu'on vient de goûter. Et puis on parlait tout à l'heure avec François-Xavier d'un excellentissime rosé à Tavel, Anglore, qui est absolument magnifique.
Éric Pfefferling, tout à fait.
Vous êtes rosé alors aussi, François-Xavier ?
Oui, mais je suis d'accord avec Olivier. Ça dépend comment, qui. Voilà, moi, les rosés corses, j'adore, les clos canarelles, voilà. C'est vrai qu'il y a tout et n'importe quoi dans le rosé, il faut s'enseigner quoi.
Il faut bien
acheter des rosés de vignerons authentiques.
Exactement, et bien merci beaucoup Olivier Pouls. François-Xavier, c'est le moment de vous passer à la casserole avec le questionnaire des bons vivants. Vous êtes prêts ?
Ah oui.
Et bien c'est parti. François-Xavier de Maison, quel est le goût de votre enfance ?
Ben, j'évoquais tout à l'heure les sandwichs de mon cousin José Salge, ce sont ses glaces et puis ses canistrelli qui est une spécialité corse, voilà, au petit déjeuner. Je me prenais mon canistrelli et voilà.
Un biscuit sec, délicieux.
Voilà, avec des amandes, très croquant, qui fait un peu mal aux dents, mais c'est ça qui est bon.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable ?
Ah, c'est les repas que j'ai pu faire à l'Arpège.
Chez Alain Passard, ouais. L'homme qui murmure à l'oreille des légumes.
Voilà, c'est ça.
Ça forge le goût et le palais, ça.
Oui, oui. J'avais beaucoup de chance.
Ouais. Et votre pire repas ?
C'est difficile à dire. Hein. Oh, je crois que c'est en Normandie, dans une petite auberge où on a tous été malades.
Ah oui, bah ça c'est une bonne raison.
On avait pris des tourteaux qui sentaient la serpillière, des carottes râpées qui sentaient l'acétone. Et c'était épouvantable.
Mais rassurez-nous, il a fermé depuis.
Bah écoutez, je sais pas.
Ça s'appelait ?
J'ai oublié l'adresse.
Ah, j'en ai oublié. Bon. Quel est le plat que vous ne pouvez pas manger, François-Xavier de Maison ?
Les betteraves. J'ai du mal avec les betteraves. Certains légumes, j'oubliais. Où on comprend vraiment pourquoi ils les ont oubliés.
C'est la fin.
À un moment donné, on les avait oubliés, c'est pas la peine de.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte ?
La blanquette de veau, mais ça va pas être pratique.
Faudrait une grosse glacière.
Une grosse glacière.
Quel est votre mot préféré en cuisine, François-Xavier ?
Amuse-bouche. J'aime bien quand on me dit quelques amuse-bouches. J'adore ça. Surtout dans les grandes tables, les amuse-bouches, c'est un festival. L'autre jour, j'étais chez Jean-François Piège au grand restaurant. Tout ce qui précède l'entrée, c'est magique, c'est extraordinaire. Extraordinaire.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, François-Xavier de Maison ?
Bah écoutez, ma fille d'abord, qui est aussi gourmande que son père. Et puis, je sais pas, des amis vignerons, mon grand-père, et puis ma compagne.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, François-Xavier ?
C'est la brouillade de truffes. J'adore ça. Je fais souvent des pâtes à mes copains, et voilà.
Et le mot de la fin, F-A-I-M ?
Il y a une adresse extraordinaire à Montesquieu-les-Alberts qui s'appelle chez Antoine. Vous avez une personnalité incroyable. Et lui, il est obsédé par le produit et il fait une cuisine simple, mais vraiment extraordinaire. Et je crois que c'est le produit, en fait, Le mot de la fin.
Le produit, toujours le produit. Bien, c'était ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui pour cette spéciale pique-nique avec de bons produits. Merci François-Xavier Demaison.
Un plaisir.
Plaisir partagé. Merci d'être venu à la table des bons vivants. Je rappelle votre film, une comédie qui sort mercredi avec Mathilde Seigné. Ni une, ni deux, si vous voulez vous marrer. Allez voir Ni une, ni deux avec François-Xavier Demaison. Merci à toute la bande des bons vivants. Merci à Lucille Escourou, Julien Amat et Louise Delaroy de m'avoir aidé à préparer cette émission. Olivier Poul, Yves Candebord et Marion Sauveur. Et vous, les auditeurs d'Europe 1, venus en nombre sur la terrasse d'Europe 1, on était bien. Le soleil va peut-être jouer un petit peu à cache-cache ce week-end, mais profitez-en tout de même pour pique-niquer. Vous retrouverez toutes les références sur europe1.fr. Bon samedi, faites le marché, la cuisine et le reste aussi. Bon week-end Géraldine.
Merci beaucoup Laurent, à samedi prochain donc sur Europe 1. C'était La Table des Bons Vivants, spécial pique-nique ce midi. Une émission à écouter ou réécouter bien sûr sur notre site europe1.fr.